Et le journal est présenté ce soir par Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Nice, une nouvelle fois endeuillée par un acte terroriste. Un jeune Tunisien a tué 3 personnes à l'intérieur et aux alentours de la basilique Notre-Dame de Nice. Nous ferons le point sur l'enquête avec Florence Turm. Nous écouterons Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'est rapidement rendu à Nice pour dire le soutien de la nation aux catholiques, pour annoncer le renforcement de la protection des lieux de culte et des écoles et pour rappeler les Français à l'unité. L'autre actualité majeure en France, c'est le reconfinement qui entrera en vigueur à minuit. Le Premier ministre donne ce soir une conférence de presse. Nous reviendrons sur l'obligation du port du masque, obligatoire dès l'âge de 6 ans. Et avec Anne Lamotte, nous parlerons des librairies qui doivent fermer leurs portes. Enfin, nous irons en Côte d'Ivoire où les tensions sont fortes à l'approche de l'élection présidentielle. Depuis 3 mois, une 30aine de personnes ont été tuées dans le pays. Le pouvoir et l'opposition ivoirienne s'accusent mutuellement d'être responsables de ces violences. Le glas a sonné à 15h dans toutes les églises de France. Ce matin, un jeune homme armé d'un couteau a tué 3 personnes à l'intérieur et aux alentours de la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Une attaque qui bouleverse la ville déjà traumatisée par l'attentat sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Mais c'est toute la France qui est secouée par cet attentat qui fait terriblement écho à l'assassinat de Samuel Paty, décapité après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Bonsoir Florence Turm.
Bonsoir.
On avait beaucoup d'interrogations ce matin sur l'assaillant de Nice. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de nous dire ce soir?
On en sait un peu plus sur l'auteur de l'attaque menée à la basilique. Il a lui-même décliné une identité, Brahim Aoussaoui, identité qu'il reste à confirmer par l'exploitation de ses empreintes digitales, car il n'avait pas de papier sur lui. Il s'agirait d'un jeune Tunisien de 21 ans, arrivé en Europe en septembre dernier par l'île italienne de Lampedusa, puis passé en France ce mois-ci en situation irrégulière. Il était cela dit inconnu des services de police et aucune revendication n'a été formulée, comme cela avait été le cas avec ce message assorti d'une photo macabre diffusée sur Twitter juste après la décapitation du professeur Samuel Paty le 16 octobre dernier. Aujourd'hui, on retrouve la même brutalité dans le mode opératoire. L'assassin est entré dans la basilique Notre-Dame de Nice armé d'un couteau peu avant 9h. Il a agressé plusieurs fidèles de manière particulièrement sauvage. Une femme de 70 ans retrouvée égorgée près du bénitier et le sacristain de l'église égorgé également. Une autre femme atteinte de plusieurs coups de couteau a réussi à se réfugier dans un café voisin mais elle est décédée quelques instants plus tard des suites de ses blessures. L'agresseur semble avoir agi seul mais le parquet national antiterroriste et les services de police d'enquête vont bien sûr chercher à déterminer s'il a pu bénéficier de complicités extérieures ou avoir été en relation avec d'éventuels commanditaires. Chercher aussi à comprendre ses motifs. Neutralisé par les forces de l'ordre, blessé par balles et menotté, il ne cessait de répéter « Allahu Akbar ». Transporté au CHU de Nice, il a subi une intervention chirurgicale et les policiers vont bien sûr l'interroger dès que son état le permettra.
Florence Turm avec Georges Thau à la technique. Les policiers niçois sont encore très choqués. Je vous propose d'écouter David-Olivier Reverdy, le secrétaire national adjoint délégué aux régions du syndicat de police Alliance.
Les collègues sont sidérés parce qu'il est arrivé, c'est la 3e fois que Nice subit un attentat terroriste. 3 fois, c'est pas anodin. Ça marque énormément les esprits. Par contre, derrière, tout le monde s'affaire, parce que les collègues sont professionnels, s'affaire au maximum à la résolution de cette affaire, à essayer de comprendre. Y a-t-il des ramifications? Y a-t-il des complicités? Pourquoi cet individu a-t-il agi? Comment? Est-ce que c'était préparé? En fait, toutes les questions qui sont celles que l'on se pose après justement un acte terroriste. Et ça va être un long travail d'enquête qui va commencer déjà par l'exploitation de la vidéosurveillance qui est présente devant l'église Notre-Dame à Nice.
David-Olivier Reverdy du syndicat Alliance, il répondait à Anne Fauquemberg. Après la mort de Samuel Paty, plusieurs médias avaient publié des caricatures de Mahomet et Emmanuel Macron avait alors fait l'éloge de cette liberté d'expression, ce qui a été très mal perçu dans une partie du monde musulman où des appels au boycott de produits français ont été lancés. Depuis Nice aujourd'hui, le président de la République a de nouveau prononcé un discours très ferme, Emmanuel Macron.
Si nous sommes attaqués, une fois encore, c'est pour les valeurs qui sont les nôtres, pour notre goût de la liberté, pour cette possibilité sur notre sol de croire librement et de ne céder à aucun esprit de terreur. Et je le dis avec beaucoup de clarté une fois encore aujourd'hui, nous n'y céderons rien. C'est donc un message de fermeté absolue que je veux passer aujourd'hui. Et enfin, c'est également un message d'unité. En France, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Et je veux dire à tous nos concitoyens, quelle que soit leur religion, qu'ils croient d'ailleurs ou qu'ils ne croient pas, que nous devons dans ces moments nous unir et ne rien céder à l'esprit de division. Je sais que tous nos concitoyens sont aujourd'hui profondément choqués, bouleversés de ce qui vient une fois encore de se passer. Et donc j'appelle à l'unité de tous. Soutien de la nation à Nice, aux catholiques de France, fermeté et unité. Telle est la ligne que nous devons suivre aujourd'hui et que nous continuerons de suivre demain.
Le chef de l'État annonce le renforcement de la protection des lieux de culte et des écoles. Le nombre de militaires déployés sur le territoire dans le cadre de l'opération Sentinelle va passer de 3 000 à 7 000 militaires. Et le plan Vigipirate est porté au niveau urgence attentat sur l'ensemble du territoire national. Bonsoir Pierre Neveu.
Bonsoir Elie.
On a entendu Emmanuel Macron, il appelle les Français à l'unité. Est-ce que la classe politique le suit ?
Écoutez, il y a d'abord les mots du Premier ministre Jean Castex devant les députés. Il dénonce une attaque lâche et barbare qui endeuille le pays tout entier. La classe politique est unanime pour désigner l'ennemi. Les terroristes veulent le chaos, dit l'insoumis François Ruffin. Ne leur offrons pas nos divisions. Un appel à l'unité relayé par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Le temps n'est pas à la polémique, dit-il, ni à la politique. Mais pour le président du Sénat, Gérard Larcher, les mots ne suffisent plus. Il faut aller plus loin. L'opposition de droite réclame des actes forts, quitte à s'exonérer des lois de la paix pour anéantir l'islamo-fascisme de notre territoire. C'est ce que dit Christian Estrosi sous le coup de l'émotion. Notre pays est en guerre, surenchérit le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Il demande une législation d'exception pour éradiquer les islamistes. Un appel qui trouve un écho au Rassemblement national où Marine Le Pen réclame une loi spécifique pour mettre hors d'état de nuire les terroristes. Dans les rangs de la majorité présidentielle, le député Loïc Dombreval espère que le futur projet de loi contre le séparatisme sera un instrument de lutte efficace contre l'islamisme. Nous ne transigerons pas, nous ferons bloc, nous ferons nation, martèle le délégué général de La République En Marche. Ne rien lâcher dans ce combat, c'est aussi le message du premier secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure. Quand Jean-Luc Mélenchon réaffirme son soutien au gouvernement, mais il s'interroge sur notre vie collective demain entre terrorisme et société de surveillance généralisée.
Pierre Neveu, les catholiques ont été invités à une prière pour les victimes de l'attaque de Nice, une attaque qui résonne particulièrement dans le diocèse de Rouen où a été tué en 2016 le père Jacques Hamel, un diocèse qui a développé un dialogue interreligieux très poussé. L'archevêque Dominique Lebrun était abattu cet après-midi, mais pas résigné.
À chaque fois que la question du terrorisme revient, j'ai toujours un peu l'impression qu'on fait un pas en arrière, même si déjà l'assassinat de Samuel Paty m'avait profondément remué. J'étais en train de réfléchir avec les responsables des écoles catholiques comment on allait reprendre les choses, parce que je crois qu'il faut vraiment dire que tuer au nom de Dieu, ce n'est pas possible, qu'un Dieu qui demanderait de tuer n'existe pas. Moi, je souhaiterais qu'à la rentrée, on lise et Camus et le récit des 10 commandements dans l'Ancien Testament, là où il est écrit « Tu ne tueras pas » comme une parole de Dieu, qui vient de Dieu, « Tu ne tueras pas ». Qu'on lise ce texte fondateur de décivilisation, reconnu par la communauté juive, reconnu par la communauté musulmane. Qu'on lise ces textes et qu'on en parle et qu'on en discute.
Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, et le pape François condamne, je cite, de la manière la plus énergique, des actes violents de terreur. Il exhorte le peuple français à rester uni. La chancelière allemande exprime la solidarité de l'Allemagne avec la France. Angela Merkel se dit profondément bouleversée. Le premier ministre britannique Boris Johnson se dit sous le choc et qualifie l'attaque de barbare. De nombreuses réactions internationales vont dans le même sens. À noter que la Turquie a rapidement réagi. Elle se dit solidaire du peuple français contre la violence et le terrorisme. La Turquie qui avait pourtant appelé au boycott des produits français. Condamnation aussi de l'attentat par l'Arabie Saoudite. Ce matin, un vigile du consulat de France à Jeddah a été attaqué par un homme armé. À partir de ce soir, minuit, et jusqu'au 1er décembre au moins, le pays tout entier se reconfine. Un nouveau confinement un peu plus souple qu'au printemps pour éviter l'effondrement de l'économie et les drames humains. C'est ainsi que le travail est un motif de dérogation, tout comme les visites en maison de retraite et en EHPAD, et le recueillement dans les cimetières en cette période de Toussaint. Mais le discours du président qui a annoncé le reconfinement hier soir a laissé beaucoup de questions en suspens. Le Premier ministre doit donc apporter des précisions au cours d'une conférence de presse vers 18h30. compte. Alors ce matin, le chef du gouvernement a appelé les parlementaires à l'unité et à la cohésion. Et après son intervention à l'Assemblée, perturbée par l'annonce de l'attaque terroriste de Nice, Jean Castex est venu défendre la stratégie gouvernementale devant le Sénat. Mais les sénateurs lui refusent leur soutien, Laura Dulieu.
Oui, et avant le vote, le président du Sénat, Gérard Larcher, a d'abord demandé une minute de silence. Et Jean Castex a ensuite rappelé à la tribune la nécessité de continuer le débat.
Il était de mon devoir d'être présent ici, au Sénat, dans mes fonctions, comme cela était prévu. La vie démocratique que certains souhaitent abattre doit plus que jamais suivre son cours.
Et puis le Premier ministre a défendu une nouvelle fois la stratégie du gouvernement, stratégie critiquée par l'opposition. Patrick Kanner, président du groupe socialiste, dénonce le manque de transparence et de concertation.
Nous regrettons votre gestion trop pyramidale. L'exécutif ne s'est pas senti obligé de présenter publiquement devant quiconque les différents scénarios sur lesquels il a travaillé. La fonction délibérative de notre démocratie est ainsi remplacée par un débat qui n'aboutit qu'à un enregistrement a posteriori d'une décision prise par ailleurs, puis détaillée plus finement devant la presse que devant la représentation nationale. Pour autant, nous voterons en faveur de ce qui est devenu inévitable. Ce vote n'est en aucun cas un vote de confiance pour le gouvernement. C'est un vote favorable pour encore une fois protéger les Français.
Même son de cloche à droite, majoritaire au Sénat. La droite qui reproche au gouvernement de maintenir ce vote symbolique alors que les décisions ont été actées sans les parlementaires.
Vous vouliez ce débat, vous vouliez ce vote, mais les jeux sont faits. Tout est décidé, mes chers collègues. C'est un théâtre d'ombre. Vous nous demandez finalement une confiance. Cette confiance, nous ne pouvons pas vous l'accorder. Nous ne pouvons pas signer un chèque en blanc. Les Français ne font plus confiance. Je pense que ce vote est inutile.
Et un vote qui, de toute façon, n'engageait pas la responsabilité du gouvernement.
Laura Dulieu, avec le reconfinement, seuls les commerces dits essentiels vont rester ouverts. Comme lors du premier confinement au mois de mars, les librairies seront donc fermées dès demain. Mais en attendant, c'est l'affluence des grands jours. Les clients se précipitent pour faire des provisions. Reportage dans le 16e arrondissement de Paris avec Anne Lamotte.
À la librairie Fontaine, dans le 16e arrondissement de Paris, Claire Autier, la gérante, n'a que 2 minutes, pas plus, à nous consacrer. Parce qu'à quelques heures du confinement, dans la petite librairie, une quinzaine de personnes font leur choix. 5 font la queue. Depuis ce matin, ça n'arrête pas.
Ah bah c'est comme une journée de Noël. Donc, oui, on a autant de monde qu'un 23 ou un 24 décembre.
Ça vous fera 25,95 si vous...
Je pense que le premier confinement a clairement mis en avant le fait que le livre était un bien de première nécessité. Donc bah là, voilà. Les gens viennent faire des piles.
Des piles dans lesquelles on retrouve aussi bien Emmanuel Carrère que Victor Hugo.
On a besoin de livres.
Parmi les clients pressés, Françoise, venue chercher, elle, un polar, Surface, d'Olivier Norek, pour s'évader, dit-elle, pendant le confinement qui vient.
C'est une nourriture intellectuelle, comme quand on ouvre les supermarchés.
C'est la nourriture du cerveau, on va dire.
Voilà, c'est la nourriture du cerveau, donc on a besoin des deux.
Du monde donc, et dès demain, le click and collect, une petite table installée à l'entrée de la librairie où l'on pourra venir chercher les ouvrages commandés sur le site internet.
On est un peu sidéré, mais voilà, on s'adapte.
Mais cela ne suffit pas à rassurer Marie Herry, gérante de l'Avocat, une autre librairie pas loin de là. Le click and collect, c'est bien, reconnaît-elle. Encore faut-il que la chaîne du livre, les maisons d'édition, l'approvisionnement fonctionnent, que les commandes arrivent.
Et on ne peut pas vivre longtemps si on n'est pas approvisionné dans des délais raisonnables.
Le tout dans une période essentielle, les fêtes. D'après le syndicat de la librairie française, le livre est depuis plusieurs années maintenant le cadeau le plus offert. Les mois de novembre et de décembre représenteraient en moyenne un quart du chiffre d'affaires des librairies en France.
Est-ce que vous voulez un sac ?
Le grand prix du roman de l'Académie française qui devait être décerné cet après-midi a été annulé. Le Goncourt qui devait dévoiler son lauréat le 10 novembre et l'Interallié le 18 ont décidé de reporter leurs annonces en soutien aux libraires. Contrairement au premier confinement, cette fois-ci, les écoles vont rester ouvertes, mais les enfants devront y porter le masque à partir de 6 ans au lieu de 11 auparavant. Cette mesure ne fait pas l'unanimité puisque les enfants ne sont pas considérés comme des vecteurs du virus. Le professeur Robert Cohen, pédiatre et infectiologue, au centre hospitalier intercommunal de Créteil nous le disait encore il y a quelques jours sur cette antenne. Mais aujourd'hui, il comprend que la poussée de l'épidémie de coronavirus pousse à prendre cette décision.
Aujourd'hui, ils sont toujours moins contaminés et moins contaminants, mais avec un risque de base qui est tellement plus élevé chez l'adulte que la mesure apparaît à ce stade-là acceptable. C'est pour protéger les enfants d'une contamination éventuelle et qu'après, secondairement, ils contaminent les adultes. Aujourd'hui, la circulation virale est tellement forte qu'on peut essayer de le faire en sachant qu'on n'est pas sûr que ça soit efficace. Depuis le début de l'épidémie, l'OMS, qui n'était pas favorable au port du masque avant 11 ans, avait précisé que ce port pouvait s'envisager entre 6 et 11 ans si la circulation virale était intense. Nous sommes exactement dans ce cadre-là. Pour nous, il ne fallait pas le faire avant, et on est sûr de ça, parce que jusqu'à présent, vous avez bien compris que les écoles primaires n'ont joué aucun rôle dans la dynamique de l'épidémie, et que le risque était faible. On sait déjà que les enfants sont moins contaminés, moins contaminants, et leur faire porter un masque toute la journée alors qu'ils étaient moins contaminés et moins contaminants ne nous paraissait pas raisonnable. Ce qui est nécessaire, c'est d'augmenter notre lutte contre la circulation du virus.
Le pédiatre Robert Cohen, joint par Cédric Hermel. Et puis à noter d'immenses bouchons ce soir sur les routes d'Île-de-France, presque trois fois plus que d'habitude, à quelques heures du reconfinement. Dans l'actualité internationale, signalons maintenant la tension croissante en Côte d'Ivoire. C'était aujourd'hui le dernier jour de campagne électorale. Le président sortant Alassane Ouattara brigue samedi un troisième mandat, alors que la Constitution n'en autorise que deux. Il a pris cette décision après le décès de son dauphin désigné, mais sa candidature est contestée par l'opposition qui a décidé donc de boycotter le scrutin. Et l'élection va se dérouler dans un climat de peur, 10 ans après des violences post-électorales qui avaient causé la mort de plus de 3000 Ivoiriens. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Abidjan, Gilles Gallinaro et Omar Waman.
Youpougon est en face de nous, à Bobo légèrement à droite, donc à 15 km du centre d'Abidjan. Les choses peuvent s'embraser sans prévenir très très rapidement.
Le 10e étage de la résidence où habite Christophe Duvernet, un Français installé en Côte d'Ivoire depuis 3 ans, offre une vue sur tout Abidjan, secoué il y a 10 ans par des violences électorales.
Tout le monde a été traumatisé de voir des hélicoptères mitrailler les foules. L'arrivée des élections fait peur à tout le monde.
Et vous, vous n'avez pas peur ?
Je crois que c'est trop facile d'être dans un pays pour en profiter quand tout va bien et de quitter le pays dès qu'il y a quelques risques. Donc pour ce qui me concerne, je reste.
Mais dans la gare routière d'Adjamé, l'une des plus importantes de la capitale économique, nombreux sont les habitants qui ont fait le choix de quitter la ville à destination du nord du pays. Marie s'apprête à monter dans un bus bondé pour rejoindre sa famille qui se trouve à Yamoussoukro, à 2 heures de route.
Donc il y a les élections qui approchent là, et je suis seule à Abidjan ici, c'est pas trop prudent, on sait jamais. C'est pas un climat de sécurité, il n'y a pas d'issue, c'est un peu inquiétant, ça peut basculer.
Dans la commune déshéritée de Youpougon, aux portes d'Abidjan, la majorité de la population n'a pas les moyens de partir. Réputé pour être un fief de l'ancien président, Laurent Gbagbo, Youpougon a été le théâtre il y a 10 ans de tueries et massacres.
Ici, on est mélangé, il y a Djoula, il y a Bété, bon, nous tous, on est ici.
Des habitants encore sous le choc, à l'image de Daniel qui élève seul ses 6 enfants.
Les gens s'en vont. Bon, moi, je n'ai pas l'argent, donc je suis là et mes enfants. Si j'avais là, même tout de suite, il n'y allait pas. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Ce qu'on voit, ce qui se passe, c'est dangereux. Au fond, on a peur. Vérité, on a peur. Il y a eu trop de chocs. Il y a eu trop de victimes. Moi-même, j'ai été victime. J'ai perdu mon mari. Je l'ai retrouvé pourri.
Donc, si les jeunes commencent, que les gens ont commencé à s'affronter.
Et pour éviter que l'histoire ne se répète, Issiaka Diaby, président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, sillonne depuis des années cette commune de Youpougon où il tente de réconcilier les habitants. Selon lui, les risques d'affrontements intercommunautaires sont bien réels.
Donc parlons aux jeunes. Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'il y a une lutte aujourd'hui pour la question du pouvoir. Donc ils redoutent que les gens ne viennent encore les faire subir des violences.
Il y a un climat de haine actuellement.
Il y a un climat de haine déterré par les hommes politiques.
Merci monsieur Pascal Affine-Guessant de nous recevoir ici à Abidjan. Et ce climat de peur est entretenu par certains partis politiques déterminés à barrer la route d'un troisième mandat au président Ouattara.
Cette élection n'aura pas lieu. Et nous n'y participons pas.
Pascal Affi Nguessan, un des 4 candidats et porte-parole de l'opposition, qui appelle au boycott du scrutin.
La situation sociologique et politique est telle que si nous n'y prenons garde, nous risquons de connaître un autre Rwanda en Côte d'Ivoire.
Et dans cette commune de Youpougon, la haine contre Alassane Ouattara a pris des proportions inquiétantes.
Il est arrivé par la terreur, il partira par la terreur.
Michel fait partie des nombreux sympathisants de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien dont la candidature a été invalidée car sous le coup d'une condamnation.
Seul le président Gbagbo qui pourra revenir en Côte d'Ivoire et ramener la paix.
en prenant le risque d'un troisième mandat, Alassane Ouattara a ravivé les braises mal éteintes de la guerre civile, une lutte pour le pouvoir qui porte les germes d'un nouveau conflit meurtrier.
Omar Waman et Gilles Gallinaro à Abidjan pour France Culture. Le temps prévu demain, une grisaille persistante sur la moitié nord avec de petites pluies près des côtes de la Manche et vers la frontière belge. Des Pyrénées au quart sud-est, la journée de vendredi sera agréable et ensoleillée. Les températures de 4 à 14 au petit matin, maximum 14 à 18 de l'Alsace à la Bretagne, 19 à 24 dans le sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.